je ne fais que citer deux paroles de l'Écriture, une dans 1 Timothée 4, 16, où il est dit « Veille sur toi-même ». 1 Timothée 4, 16. Et 1 Timothée 5, 22, « Conserve-toi pur ». 1 Timothée 5, 22, « Conserve-toi pur ». Et nous voulons nous incliner dans la prière. Notre Dieu, merci pour ces deux paroles que tu nous donnes, nous invitant à veiller sur nous-mêmes et à nous conserver purs. Car nous savons, notre Dieu, que c'est là de première importance pour nous-mêmes, pour nos familles et aussi pour nos églises et même pour le monde. Seigneur, veuille nous conduire toi-même ce soir, maintenant, dans l'étude de ce sujet si important. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons vu ce matin que les villes autrefois avaient des murailles, des remparts et des tours, et que ces murs se sont écroulés avec le temps. Nous avons vu que cela s'est produit et se produit actuellement sur un tout autre plan, sur le plan de la morale, de l'éthique. Nous avons vu que on ne voulait plus admettre qu'il y ait une normativité et une normalité, que plutôt on s'accommodait, on s'adaptait au monde et que l'opinion publique était là pour travailler, pour faire abroger les lois, et que le même danger pénétrait dans les milieux chrétiens. On veut décriminaliser l'avortement. On parle de tabou, de liberté, de carcan, de contrainte dont on ne veut plus. On dit que on doit devenir adulte, ne plus se comporter comme un enfant. C'est vrai que l'apôtre Paul parle de l'homme fait, de l'homme accompli. Mais quand on nous dit que l'adulte ne doit plus obéir à des commandements, on se trompe certainement. Nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il y a des commandements, qu'il y a des commandements créationnels qui sont toujours valables. Nous avons vu les trois usages de la loi, d'après la pensée des réformateurs, dont le dernier usage nous concernait en tant que chrétiens, la loi, l'usage didactique de la loi, qui nous éclaire, qui nous montre comment nous devons aimer et qu'on ne peut pas séparer l'amour de l'obéissance au commandement du Seigneur. Nous avons vu qu'un peuple qui n'a plus de révélation, qui n'a plus de vision, est un peuple qui n'a plus de frein, et qu'alors chacun fait ce qui lui semble bon, comme ce fut le cas chez le peuple d'Israël du temps des juges. Maintenant, nous voulons remonter la pente, ne pas rester là au fond de l'abîme ou de la boue. Nous voulons remonter et nous voulons voir comment un redressement éthique peut s'opérer dans le monde. Mais il ne faut pas commencer par le monde. Je crois qu'il faut commencer par l'homme, par l'individu, par le chrétien, par nous, par moi, et ne pas renverser cet ordre de choses. Nous avons dit que dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, chapitre 8e, verset 10e, « Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. » Voilà l'œuvre, l'opération de Dieu, de l'Esprit de Dieu, par le moyen de la parole de Dieu. Nous avons deux ennemis. Oh, peut-être qu'on pourrait en énumérer, en trouver d'autres, mais nous devons simplifier. Nous avons deux ennemis corrompeurs, pourrions-nous les appeler. D'abord, notre propre nature, pécheresse. Nous sommes nés dans l'iniquité, psaume 51, verset 7. Nous sommes par nature des enfants de colère, Éphésiens 2, 3. Et ce qui fut dit à propos du peuple, l'humanité de l'époque de Noé, est encore malheureusement valable aujourd'hui. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse chapitre 6, verset 5. Ils suivent les penchants de leur mauvais cœur. Jérémie 23, 17. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Genèse 9, 21. Et nous pourrions continuer de citer la parole de Dieu pour prouver la corruption de l'homme naturel. Et cette nature nous joue de mauvais tours. Elle nous incline vers le mal. Il y a le penchant de nos cœurs vers le mal, un penchant que nous suivons, un courant dans lequel nous sommes emportés. Quelqu'un dit un jour, il n'y a que les poissons vivants qui remontent le courant. Les poissons morts sont emportés par le courant. Le philosophe Kung Fu, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà rencontré, pas moi, a dit quelque chose d'intéressant. Le mal ne peut te nuire que s'il y a quelque chose au-dedans de toi qui l'accueille. C'est vrai. S'il y a quelque chose au-dedans de moi qui l'accueille, il peut me nuire. Mais s'il ne trouvait pas d'écho favorable dans notre cœur, il ne pourrait pas nous nuire. Mais malheureusement, il y a dans le cœur de l'homme ce quelque chose qui l'accueille. Et le danger, nous l'avons vu ce matin déjà, c'est que le cœur non régénéré ou mal éclairé du chrétien même devient la norme de notre comportement. La psychologie moderne y aidera. Elle nous dira, il faut se réaliser, il faut se déculpabiliser, il faut s'épanouir, il faut vivre sans aucune contrainte. Toutes ces formules qui vous sont connues. Voilà donc le premier ennemi, notre propre nature. Le deuxième ennemi corrompeur, c'est la pression du groupe. Et tout d'abord, l'éducation que nous avons subie. Le milieu familial, le milieu social, le milieu religieux dans lequel nous avons été élevés. Et si nous sommes là aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, je pense que nous avons une faveur, que nous avons peut-être, tout jeunes déjà, été mis au contact de l'Évangile. Peut-être que certains ont été dans d'autres conditions moins favorables et que Dieu est intervenu dans leur vie pour les changer, pour leur changer l'orientation. Mais il y a la pression du groupe, il y a les masses médias, il y a ce qu'on appelle le matraquage, il y a la pression de l'image. Et quand je dis pression de l'image, je pense bien sûr aux films, et je pense à la TV en particulier. Et peut-être que cela vous intéresse, pourrions-nous ce soir ou dans d'autres, à d'autres moments d'échange, échanger nos points de vue sur l'image, sur la TV. La société permissive au milieu de laquelle nous vivons nous marque à notre insu. Nous ne nous rendons même pas compte combien ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous regardons, ce que nous apprenons nous marque. Et marque d'autant plus encore nos enfants, et ceux qui ne sont pas conscients du danger. Et puis les compagnies, les mauvaises compagnies, c'est l'apôtre Paul déjà qui l'avait dit, en son temps, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. L'esprit d'imitation, d'adaptation à ce mode de vie, ce style de vie nouveau, un environnement qui nous conditionne, l'art, qui quelquefois n'est que de la pornographie, les idéologies, les philosophies, les études supérieures que font nos jeunes souvent, Loin de moi l'idée de dire qu'il ne faudrait plus étudier, qu'il faudrait se contenter d'un niveau inférieur de scolarité. Mais il y a un danger. Et nous devons prévenir, nous devons avertir. Mais souvent cela n'est pas compris quand l'avertissement est donné, car ce n'est qu'en cours de route et en cours d'études, et en écoutant continuellement, en recevant continuellement une nourriture empoisonnée souvent par la philosophie, que lentement le travail se fait et que tout se dégrade. Il y a l'instabilité éthique dont parle White dans le livre qui est là, la conscience, vivre selon sa conscience. Une instabilité éthique. On ne sait plus bien, aujourd'hui on dit ceci, une autre fois on dit autre chose, et ça change d'une année à l'autre, et parfois d'une communauté évangélique à l'autre, ce qui est permis là est interdit là, au point que les jeunes ne savent souvent plus ce qui est vrai, ce qui est juste. Les vues éthiques se sont tellement libéralisées sous la pression d'une culture fondée sur le relativisme et l'humanisme. Et le comportement de la majorité devient finalement le modèle de notre propre comportement. Et les chrétiens se laissent également influencer. Le pire, c'est que le mal va se généralisant et il finit par être officialisé, je dirais, par être admis et par être reconnu, comme nous l'avons déjà dit. On veut tenir compte, nous dit-on, de la réalité de la vie. Et alors, forcément, on doit s'adapter. Mais il y a des agents redresseurs à côté de ces deux ennemis dont je viens de parler. Et ces trois agents dont j'aimerais vous entretenir maintenant sont très importants. Il y a premièrement notre conscience. On en a déjà parlé et je crois que le terrain a été bien déblayé déjà ce matin par le moment, l'heure que nous a donné notre frère M. Lyot. La conscience. Conscience de l'homme déjà. Et plus encore la conscience de l'enfant de Dieu, évidemment. La conscience, de con qui veut dire avec, de science qui veut dire savoir, comme si quelqu'un était en nous, comme s'il y avait une voix intérieure, un juge intérieur qui savait avec nous, qui contrôlait notre vie. À l'origine, c'est le siège de la loi universelle, de la loi morale de Dieu, dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de loi écrite, mais qu'il y avait quand même déjà une loi, des lois, que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Ces lois étaient là, inscrites dans la conscience de l'homme. La loi morale de Dieu. Nous avons vu que la chute avait quelque peu, ou beaucoup, émoussé la conscience. Obscurcit la conscience, cautériser la conscience, flétrit la conscience. Mais elle ne l'avait pas entièrement étouffée, puisqu'il nous est dit dans Romains 2 que cette conscience est toujours là, et que même l'homme qui ne connaît pas la loi, et encore moins l'évangile, il a une conscience pour lui, qui l'accuse et qui le défend tour à tour. Le théologien norvégien Hallesby a dit que la conscience ne peut agir, elle rend un verdict. Elle ne fait rien, elle ne nous empêche pas, elle est avec nous, comme elle est avec nous, et elle nous parle. Comme quelqu'un qui nous dirait, ne fais pas ça, mais qui ne va pas nous retenir si nous voulons quand même faire le mal. Comme quelqu'un qui nous dirait, fais cela, car c'est bon, c'est bien, mais qui ne nous oblige pas à le faire. La conscience ne peut agir. Elle rend un verdict. Elle compare, dit le même auteur, nos actes, nos paroles, nos pensées et notre être tout entier à la loi morale, à la volonté de Dieu. Et ensuite, elle rend son verdict et décide si nous sommes en accord ou en conflit avec la volonté de Dieu. C'est White qui le dit dans le livre cité tout à l'heure. La conscience, on dit d'autres, est une pâte à modeler à laquelle chacun donne la forme qu'il désire. Extrêmement dangereux de pouvoir modeler cette pâte et lui donner la forme qu'on désire. Un missionnaire demanda un jour à un cannibale quelle était la différence entre le bien et le mal. Et le cannibale de lui répondre, le bien, c'est quand moi mange toi. Et le mal, c'est quand toi mange moi. Voilà la conscience du cannibale. Et peut-être voilà la conscience de beaucoup d'hommes de notre société actuelle, non pas qu'ils soient cannibales, mais dans beaucoup de choses, quand c'est moi qui le fais, dans mon intérêt, c'est bon. Et quand un autre le fait dans son intérêt, alors c'est mauvais. Nous avons donc une responsabilité, nous avons donc une voix intérieure qui devient une voix de plus en plus forte, claire et sûre quand elle est éclairée par la parole de Dieu, ce que n'est pas la conscience de l'homme naturel. Encore qu'indirectement, toute notre société est au profit, placée au bénéfice de la loi de Dieu, qui d'une manière ou d'une autre a marqué surtout l'Occident, sans que les gens en soient toujours conscients, et jusque dans nos lois civiles. Nous devons nous efforcer d'avoir constamment une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Acte 24, verset 16. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, mais il purifie nos consciences des œuvres mortes. Hébreux 9, 14. S'il y a des œuvres mortes, des œuvres qui sont mauvaises devant Dieu, nous pouvons les porter devant le Seigneur. Et il peut purifier nos consciences des œuvres mortes. Autrement, j'aurais un grand fardeau si tout ce que nous avons fait, commis de mauvais dans notre vie, était encore sur nos consciences. Mais le Seigneur les a purifiés. Et le Seigneur les purifie tous les jours à nouveau. Non pas pour que nous disions, je peux pécher une fois, 10 fois et 100 fois, et j'ai qu'à dire, Seigneur, pardonne, et puis tout est bon. Non. Mais le Seigneur pardonne quand nous venons à lui, contrits, affligés, d'avoir encore péché. Et alors nous pouvons nous approcher de Dieu, d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. Il n'y a pas d'approche de Dieu quand le cœur n'est pas sincère. Il n'y a pas de plénitude de foi possible quand le cœur n'est pas purifié d'une mauvaise conscience. C'est dans une conscience pure que nous devons conserver, garder la foi. 1 Timothée 3, 9. C'est là l'endroit où elle est bien gardée. L'endroit où elle est conservée, où elle peut augmenter. Dans une mauvaise conscience, la foi dépérit. Comme une plante qui n'a pas le terrain qui lui convient, ou qui n'a pas la lumière, ou qui n'a pas l'eau dont elle a besoin. Voilà donc un agent, la conscience. Soignons notre conscience. Ne permettons pas que s'accumulent des reproches et verdicts sur verdicts. Mais venons à Dieu avec ses fardeaux et ses péchés pour en être libérés. Et en tant que serviteur de Dieu, transmettons ce message aux âmes qui nous sont confiées. Car si la conscience est chargée, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Tant que je me suis tu, dit David, mes os dépérissaient. Mais dès qu'il avait ouvert son cœur, qu'il avait confessé son péché, le Seigneur lui a pardonné. Et la joie du salut qu'il avait perdu un moment à cause du péché d'adultère, cette joie est revenue dans son cœur. Il y a le rôle de la parole de Dieu comme deuxième agent. La parole de Dieu. Nous en avons déjà parlé, nous en parlerons encore. Elle est fondamentale pour nous. Si nous n'avions pas la parole de Dieu, si je n'avais pas ce fondement sur lequel m'appuyer pour dire ce que je dis, et si nous ne l'avions pas pour prêcher l'Évangile, eh bien, nous ne pourrions que nous taire. Ou éventuellement inventer, imaginer. Mais nous avons la parole de Dieu comme une lampe à nos pieds, comme une lumière sur nos sentiers. Parce qu'elle est une parole qui vient de Dieu, ce n'est pas une formule, c'est une réalité à laquelle nous croyons. Écrite par des hommes, c'est vrai, mais des hommes inspirés de Dieu. Une parole qui est inhérente. Il y aura prochainement un congrès à Paris. Peut-être que certains d'entre vous iront à ce congrès. Sur l'inhérence et l'autorité de la parole de Dieu. Elle fait autorité. Elle doit faire autorité dans nos vies. Elle est utile. Pourquoi est-elle utile? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. 2 Timothée 3,16. Qu'une traduit dans parole de vie. Ce que je viens de citer d'après Second, elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée. C'est la même chose, c'est dit autrement. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée. Voilà l'éthique. Une vie juste et disciplinée, une conduite réformée. Voilà ce que produit la parole de Dieu pour quiconque la reçoit et qui accepte d'être corrigé par elle. Elle nous donne des commandements précis. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne vous enivrez pas de vin. Des choses très, très pratiques, très matérielles. L'apôtre Paul a écrit des choses très élevées, doctrinales, que certains avaient de la peine à comprendre, mais il a parlé quelquefois de choses très terre à terre. On est même étonné qu'il ait dû dire aux Éphésiens 5:18, ne vous enivrez pas de vin. Et puis elle nous donne des principes généraux. Nous en avons déjà fait allusion d'ailleurs, mais il est important de le répéter. Faites tout pour la gloire de Dieu, surtout là où nous n'avons pas de commandement précis. Nous devons tout faire ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Nous l'avons dit aussi, elle nous donne des modèles. Jésus-Christ, le tout premier, les modèles que vous avez en nous, dit l'apôtre Paul. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Troisième agent, redresseur, le Saint-Esprit. Je ne veux pas traiter le sujet du Saint-Esprit, mais je voudrais faire ressortir l'œuvre que sur ce plan-là de l'éthique, il accomplit, il applique la parole de Dieu à notre conscience. Car il y a beaucoup de gens qui ont la Bible et qui ne l'ouvrent pas, ou qui l'ouvrent, mais qui ne comprennent pas, qui n'ont pas du tout le besoin de la lire, qui n'en voient pas l'utilité. La parole de Dieu ne nous apporte quelque chose que dans la mesure où elle est appliquée à notre cœur par l'Esprit de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, et de beaucoup d'autres choses encore. Et surtout, de l'amour de Dieu. Et surtout, de l'œuvre accomplie, parfaite, de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu illumine les yeux de notre cœur, Éphésiens 1:18. Illumine les yeux de notre cœur. C'est comme ça que Dieu nous fait naître de nouveau, d'eau et d'esprit, par la repentance et par la conversion, des termes qui ne sont plus compris, c'est pas du français courant. Alors on les supprime, on y met d'autres mots. Au lieu de repentance, on met changement de vie dans la version en français courant. Mais il y a là un sens qui n'est plus tout à fait le même. Car la repentance, c'est autre chose qu'un changement de vie. La repentance, c'est un changement de pensée, de mentalité, d'opinion, d'esprit, d'entendement. Quelque chose qui se produit dans mon fort intérieur, où je vois les choses autrement qu'avant, et où en tout premier lieu, je me vois autrement que je me voyais avant. Je me vois comme perdu, comme pécheur, comme coupable devant Dieu. Et je vois Dieu autrement. Et alors Dieu opère un changement dans mon cœur miraculeux. Il transforme mon cœur. Il transforme ma vue, mes pensées, mon entendement. Et j'arrive à la conversion. C'est un autre terme qui est biblique, qui veut dire revenir, qui veut dire se retourner même, littéralement parlant. Quand Jésus-Christ se retourna, c'était le même verbe qui était employé. Se convertir veut dire se retourner. Et à partir de ce moment-là, où le changement intérieur s'est produit, et où le changement extérieur a forcément suivi, il y a nouveauté de vie. Je deviens une nouvelle créature ou une nouvelle création. Et dès lors, j'emploie une nouvelle échelle de valeur. Ce changement intérieur doit se manifester extérieurement, ce qui sera la preuve de l'authenticité de ma conversion. L'éthique, c'est quoi? C'est l'homme nouveau, c'est l'homme marchant en nouveauté de vie, finalement. Ce n'est pas autre chose. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Même Jean-Baptiste déjà avait dit, produisez d'abord des fruits dignes de la repentance à ceux qui venaient à son baptême dans le Jourdain. Voilà la nouvelle éthique personnelle, une vue nouvelle et une vie nouvelle. Et le changement de la société passe par le changement de l'individu. Un nouveau comportement. Si vous avez votre programme sous la main, je ne l'ai même pas là, mais je pense que ça correspond à ce que je vais vous dire maintenant, sur le nouveau comportement face à moi-même, face à soi-même. L'éthique commence par moi. Veille sur toi-même. 1 Timothée 4, 16. Et moi-même, c'est d'abord aussi le corps. Commençons par là. Le corps. Le corps qui est un don de Dieu, le corps qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. On dit aujourd'hui à propos de l'avortement que la femme peut disposer librement de son corps. Quelle hérésie! Quand cela signifie qu'elle peut tuer l'enfant qu'elle porte en elle. Alors que nos corps sont des membres de Jésus-Christ. Cela est dit dans 1 Corinthiens 6, 15. Alors que nous devons posséder nos corps dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Et que Paul parle de ceux qui ont déshonoré leur propre corps dans Romains 1, 24. Et que lui-même, l'apôtre, traitait durement son corps et le tenait assujetti. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. De peur d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il parle de ceux qui courent dans le stade et qui s'imposent toutes sortes d'abstinences pour une couronne qui va flétrir, nous montrant par là que nous devons nous-mêmes traiter durement nos corps s'il le faut, pour ne pas être entraînés par nos corps dans le péché. Mais il dit aussi que jamais personne n'a haï sa propre chair, mais qu'il la nourrit et prend soin d'elle. Éphésiens 5, 28, 30, il parlait de la femme qui fait partie de l'homme, parce que nous avons vu tout à l'heure que les deux ne formeront qu'une seule chair. Mais nous ne devons pas prendre soin de cette propre chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. Mais nous devons en prendre soin quand même pour que le corps soit en bonne santé. L'apôtre Jean a souhaité à Gaius, dans 3 Jean 2, la santé du corps. Est-ce que l'hygiène, l'exercice physique, le repos dont nous parlions tout à l'heure, ce repos pour le corps et pour l'âme, ne sont pas donnés par Dieu pour le maintien de la forme physique, comme on dit? On a voulu, pendant la Révolution française, supprimer le jour de repos, ou plutôt en faire un tous les 10 jours. Ça n'a pas marché. On a très vite reconnu que ça ne marchait pas. Ce n'était pas le système décimal qui était donné par Dieu pour le repos du corps humain. C'était le 7e jour. Et les soins médicaux dont nous avons besoin. Et tout ce qu'il nous faudrait éviter, excès de table, orgie, ivrognerie, luxure, débauche, et j'en passe. Vous connaissez assez la Bible pour savoir combien l'apôtre Paul parle de ces choses. Donc, si tout allait de soi, je dirais, comme certains le prétendent, plus besoin de commandements pour l'homme, l'Esprit de Dieu suffit, il nous enseigne tout. Alors pourquoi l'apôtre Paul va-t-il dans ces détails? Pourquoi donne-t-il de tels commandements touchant aux choses les plus terre à terre, parlant de ceux qui ont pour Dieu leur ventre et nous invitant à posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté? Pourquoi dit-il qu'il faut avoir l'extérieur qui convient à la sainteté dans Tite 2, 3, et pas seulement pour les dames âgées dont il parle là en particulier, mais je crois que c'est valable pour tout chrétien, d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc jusqu'aux vêtements, ah, on va nous mettre sous la loi, diront certains. Mais pourquoi Pierre et pourquoi Paul parle-t-il du vêtement? Parle-t-il des ornements de la femme en particulier? On a parlé du vêtement tout à l'heure. Protection du corps. Mais cette protection du corps est devenue un moyen souvent de séduction. Alors là encore, il nous faut veiller à rester dans la ligne de modestie que la parole de Dieu nous indique, je crois, très clairement. Et puis il y a l'être intérieur. L'être intérieur, car il faut un esprit saint dans un corps saint, selon l'antique formule. Il faut se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Encore un précepte antique que vous connaissez certainement. Connais-toi toi-même. Ne pas s'abuser soi-même. Galates 6:3. S'examiner soi-même. 2 Corinthiens 13:5. Nous avons le miroir de la parole de Dieu. Jacques 1:23 à 25. Se juger soi-même. 1 Corinthiens 11:31. Se juger soi-même pour ne pas être jugé par d'autres et par Dieu. Oui, il y a un être intérieur. Et là aussi, il y a une éthique biblique. Paul parle une fois, sauf erreur, de l'esprit, de l'âme et du corps. La trichotomie, comme on appelle cela. Ailleurs, il parle plutôt de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. La dichotomie, qui vient de dika, qui veut dire deux, et de tomé, qui veut dire section, ou tome. Est-ce qu'il y a deux parties dans l'être humain? Est-ce qu'il y a trois parties? Un sujet pour notre exégète, monsieur Olliott. Je pense que l'apôtre montre qu'il y en a trois, là, une fois, et souvent il parle comme de deux parties, intérieur, extérieur. L'homme charnel, comme, pas charnel dans le sens mauvais, péjoratif, mais dans le sens du corps de l'homme, et puis l'autre partie, parfois appelée âme, parfois appelée esprit. Ce n'est pas notre sujet, nous ne voulons pas nous y arrêter maintenant, vu le peu de temps dont nous disposons. l'âme, nefesh, psyché, soit en hébreu, en grec, le souffle de vie, dont on a parlé tout à l'heure, peut aussi avoir le sens de vie intérieure, pas seulement de souffle de vie que Dieu nous a donné, mais ça peut avoir plusieurs sens. Sens de la vie intérieure, sens de la vie affective du cœur. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme a soif de Dieu. Ce n'est pas le souffle de vie qui a soif de Dieu. C'est davantage. Et parfois même âme peut désigner la personne tout entière. Il en est de même d'esprit, pneuma, qui est parfois synonyme d'âme. Pas toujours. Nous avons des devoirs éthiques envers, pour simplifier, la partie immatérielle de notre être. Il y a ce qu'on appelle, dans le langage pastoral, la cure d'âme. Il y a une hygiène mentale. Nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens 7, 1. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons contrôler nos cœurs, nos sensibilités. Proverbe 4, 23. Et nous devons veiller sur la bouche. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Proverbe 13, 3. Heureux celui qui veille, ou plutôt qui veille, sur sa main pour ne commettre aucun mal. Ésaïe 56, 2. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Quel genre littéraire, monsieur Olliott, arrache-le. Voilà de nouveau que nous sommes en pleine exégèse. Arrache-le, arrache ta main également. Il y a une autodiscipline. Soyez saints. 1 Pierre 1, 19. Voilà l'éthique chrétienne, être saint. On ne peut pas mieux résumer ce que je voudrais dire que par ce mot saint. Et pour cela, je dirais que il y a deux aspects que j'aimerais ajouter là. La Bible nous montre que pour y parvenir, voulons être pratiques, il y a deux choses qu'il faut faire ou que Dieu fait. Discutons pas là-dessus, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est Dieu qui le fait, en réalité. Je veux parler du dépouillement et du revêtement. Devons-nous dépouiller des œuvres de la chair, de notre vieille nature? Et là encore, Paul est très précis. Et pourquoi? Parce que ces choses ne se font pas d'elles-mêmes et ne viennent pas d'elles-mêmes. Il faut les nommer. Il y a la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, l'animosité, disputes, divisions, sectes, envie. Je rappelle Galates 5, 19 à 21, où Paul énumère les œuvres de la chair dont nous devons nous dépouiller. Il dit qu'il faut fuir ces choses, il faut les faire mourir. Colossiens 3, 5. 1 Corinthiens 6, 18, le mensonge, l'impudicité, encore un mot qu'on ne comprend plus. Si vous parlez aux jeunes de l'impudicité, ils vous font de grands yeux, ils ne comprennent pas. Alors on traduit différemment, débauche, comprennent-ils encore ce que veut dire débauche? C'est le mot porneia, c'est de l'immoralité, peut-être qu'ils comprendront mieux ce terme-là. Augustin, pour le citer encore une fois, a dit « Il y a deux êtres en toi, l'homme et le pécheur. Dieu a fait l'homme et toi, tu as fait le pécheur. Enlève ce que tu as fait afin qu'il ne reste que ce que Dieu a fait. » C'est très beau, c'est peut-être théologiquement pas tout à fait juste. Est-ce que nous pouvons enlever vraiment ce que nous avons fait? C'est encore Dieu qui doit nous y aider. Mais dépouillons-nous. Sachons de quoi nous devons nous dépouiller. Et puis revêtons-nous. Revêtons-nous de quoi? Oh, de beaucoup de choses. Là encore, nous ne pouvons pas consacrer tout le temps. Mais il est dit, revêtez-vous d'humilité. 1 Pierre 5, 5. de bonté, Colossiens 3, 12, d'entrailles de miséricorde, le même verset, de l'homme nouveau, Éphésiens 4, 24, et ce qui résume tout, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, Romains 13, 14. Encore faut-il pour cela bien le connaître. D'où l'intérêt de venir toujours à nouveau à lui, de toujours à nouveau le contempler en l'adorant tel qu'il nous apparaît dans l'Écriture, afin de nous laisser pénétrer par cette image, pour que son image puisse être reproduite dans chacune de nos vies. Que tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, 8. L'objet de nos pensées. Donc, c'est la recherche constante des vraies valeurs, du bien, sous toutes ses formes et dans tous les domaines de la vie, pour que nos pensées soient gardées en Jésus-Christ et que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5. Les sentiments. C'est plus que les sentiments. Ce mot qui est traduit dans nos Bibles par sentiments peut aussi être traduit par comportement, ainsi que Tob traduit ce même mot par comportement. Elle dit comportez-vous comme Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'une affaire de sentiments, mais c'est vraiment une vie, un comportement, une conduite, une éthique nouvelle que Dieu produit dans notre cœur. Voilà le renouvellement de notre entendement et voilà le renouvellement de notre vie. Voilà ce que veut dire, si je comprends bien, devenir une nouvelle créature. Afin que l'entendement étant changé, nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, bon et agréable devant notre Dieu. Romains 12, 2. Cela se traduira dans notre vie de tous les jours. Une nouvelle vie, une nouvelle éthique, ça doit se remarquer. C'est peut-être le meilleur témoignage que nous puissions rendre dans notre monde actuel, de vivre une vie nouvelle, et qui donnera d'ailleurs à nos paroles tout un autre poids, un autre impact. D'abord, face aux épreuves personnelles, qui engendre parfois le doute ou la révolte ou le découragement. Car le chrétien n'est pas épargné. Il y a la maladie, l'infirmité, l'âge, les deuils, les échecs qui surviennent aussi dans la vie des enfants de Dieu. Et là, il nous est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Je vous rappelle Joseph, arrivé à la fin de son pèlerinage, qui disait à ses frères qu'il avait vendu, qu'il avait trahi, et qui aurait voulu le tuer d'ailleurs. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Devant l'épreuve, il ne s'est pas révolté, il n'a pas douté de la bonté de Dieu, et il a compris à un moment donné que le mal qu'on avait voulu lui faire, eh bien, ce mal, Dieu l'avait changé en bien. Eh bien, voilà, Dieu peut transformer ce qui était mauvais, ce qui devait nous faire du mal, en bénédiction. Et l'apôtre Jacques, n'a-t-il pas dit, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Afin que vous soyez finalement accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, 2. Voilà comment le chrétien voit la vie et voit les épreuves, les adversités et même les adversaires. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 20 à 21. Voilà l'éthique chrétienne. Surmonter le mal par le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, dit l'apôtre Paul dans ce même texte. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et bénissez ceux qui vous maudissent. C'est Jésus-Christ qui l'a dit dans Luc, chapitre 6, 27 à 28. Et face aux souffrances d'autrui, un mot, un seul mot, compassion. Une histoire, le bon samaritain. C'est clair. Jésus est ému de compassion tout le long de son pèlerinage, de son activité, des 3 ans d'activité. Il est ému de compassion pour la foule languissante et abattue qui lui est apparue comme des brebis sans berger. Il pleure devant la tombe de Lazare et sur Jérusalem. La misère physique et la misère morale ne l'ont pas laissé indifférent. Voilà l'éthique de Jésus-Christ. Et voilà notre éthique. Nous ne pouvons pas simplement voir les gens mourir moralement, spirituellement, et même mourir physiquement, dépérir, sans avoir pitié, sans avoir compassion, être ému. Et quand nous sommes émus, vraiment émus, nous ferons ce qui est en notre pouvoir de faire. Nous ne pouvons pas faire l'impossible. Mais Jésus-Christ n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas secouru tous les gens qui, en son temps, avaient besoin d'être secourus. Il a fait du bien aux gens qu'il a rencontrés. Il a fait du bien à la femme pécheresse, à laquelle il a dit, nous l'avons dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il a guéri ces malades ou aveugles de Jéricho. Il en a guéri d'autres, mais il n'a pas guéri tous les malades et tous les aveugles de son temps. Il a ressuscité quelques morts, mais quelques morts, quelques-uns seulement. Il y en a combien d'autres qui sont morts en ce temps-là et pour lesquels il n'a pas fait de miracle. C'est l'amour qui commande les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et ses gestes. L'amour. Mais jamais cet amour ne justifiera le péché. Voyez la sévérité de Jésus-Christ face aux hypocrites pharisiens auxquels il dit malheur et auxquels il répète 8 fois ou 9 fois malheur. Voyez Paul, l'apôtre Paul, face aux faux frères, aux faux docteurs, aux faux prophètes. Il n'y va pas de main douce, comme on dirait. Non, Jésus-Christ a une attitude devant le prochain que nous devons adopter, que nous devons étudier, je dirais, que nous devons méditer afin de lui ressembler également. Et puis, face au monde, c'est un sujet trop vaste pour être traité maintenant en quelques minutes, à fond. Il y a le monde en général d'abord, je dirais, dans le sens péjoratif. Parce que là encore, il faudrait bien définir ce que nous entendons par monde. C'est pour ça que je dis dans le sens péjoratif. N'aimez pas le monde, la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Car ce monde, il va passer et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2,17. Et Paul dit que le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour lui, comme je le suis pour le monde. Galates, chapitre 6, verset 14. Oui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1, 1. Le chrétien au bistrot. Le chrétien jouant aux cartes devant un verre de vin. Les balles, les surprises parties. Le carnaval, les festivals pop et rock et compagnie. Le monde. On pourrait développer ce sujet. Démas m'a abandonné par amour pour le monde, pour le siècle présent. De Timothée 4:10. Aimant les plaisirs du monde plus que Dieu. De Timothée 3:4. Nous devons résister, tenir ferme, en prenant toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 13. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux 12, 4. Tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'éthique chrétienne, bien aimé, c'est le triomphe de la foi. C'est la victoire de la foi sur le monde. Et j'aimerais dire un mot sur l'argent qui fait partie du monde. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en sont possédés et se sont égarés loin de la foi. 1 Timothée 6:9. On ne peut pas servir Dieu et mammon. Mammon, un mot araméen qui signifie richesse. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas amasser des trésors terrestres que les mythes dévorent et que la rouille ronge. Ce n'est pas, en réalité, la possession de l'argent en soi qui est condamnée, mais la séduction des biens qui étouffe la parole de Dieu, comme cela nous est dit dans la parabole Matthieu chapitre 13. Le chef de la synagogue, très riche, devint tout triste quand le Seigneur lui demanda de vendre tout ce qu'il avait, choses et objets auxquels son cœur ne s'était que trop attaché. Mais on peut être fidèle dans les richesses injustes. C'est Luc 16 qui nous le dit. Faire un bon usage des biens que Dieu nous confie. Et là aussi, je dirais qu'il faut une perspective eschatologique, c'est-à-dire qui nous donne de voir plus loin que le moment que nous vivons sur cette terre, comme dans le récit de l'homme riche et du pauvre Lazare. Une vue qui manquait totalement à ce riche et que Lazare avait, lui. Une vue qui manquait totalement à l'autre riche qui avait dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois et te réjouis. Luc 12, finalement, c'est l'égoïsme et l'avarice qui sont condamnés et non pas l'argent, la fortune ou les biens qui peuvent aussi être donnés par Dieu pour le royaume de Dieu, pour un bon usage dans le monde de la part du chrétien, de l'enfant de Dieu. Les loisirs et l'emploi de notre temps libre, quelle place ? Le sport, le cinéma, la musique, l'art, ont-ils pris dans la vie de l'homme moderne et du chrétien parfois? C'est le problème de l'organisation de notre vie. Il faut certes des moments de détente dans la vie harassante, exténuante que nous menons parfois. Nous devons nous conduire prudemment. Nous devons le faire consciencieusement, non comme des fous, des insensés, mais comme des sages, racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi nous ne devons pas être inconsidérés, littéralement stupides. Et les fréquentations, les mauvaises compagnies dont nous avons déjà parlé. Un proverbe dit que l'eau du Nil perd sa douceur en se mêlant à celle de la mer. C'est vrai. Et accoucher avec des chiens, dit un autre proverbe, on se lève avec des puces. Alors veillons à nos fréquentations. L'oisiveté, l'eau arrêtée, dit-on, devient impure.
J'ai presque fini, et c'est presque l'heure. J'avais un chapitre que je ne veux pas aborder maintenant, le monde religieux, l'éthique vis-à-vis des gens d'autres religions. Jésus-Christ, les apôtres, nous montrent quelle était leur attitude. Nous pouvons, si vous le voulez, en parler. Ils ont eu une éthique d'approche de l'homme du monde religieux. Je rappelle Paul à Athènes, où Jésus-Christ, dans son entretien avec la Samaritaine, il y avait l'amour, il y avait la vérité. Je conclus, de façon générale, le chrétien devrait se distinguer par son honnêteté, sa droiture, son intégrité, sa serviabilité, sa libéralité, son amour pour Dieu et le prochain, et son amour pour la vérité surtout. Il doit veiller à sa conduite en tout premier lieu, avant de veiller à la conduite du prochain. Il doit avoir une conduite digne de l'Évangile, digne du Seigneur. Soyez saints dans toute votre conduite. Puisque tout cela est en voie de dissolution, écrira Pierre dans la deuxième épître au chapitre 3, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Je crois que la communion avec Dieu, notre communion individuelle, personnelle avec Dieu, est le fondement de l'éthique personnelle. Si nous demeurons en Christ, dans le chapitre 15e de l'évangile de Jean, 12 fois, il y a ce verbe « demeurer en lui ». Dans la mesure où nous demeurons en lui, je crois que nous apprendrons à nous conduire comme Dieu le veut dans le monde dans lequel nous vivons. Amen.